France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Les soldes ont commencé, vous allez acheter des choses dont vous n'avez pas besoin et que vous allez mettre deux fois. Les magasins de leur côté vont se retrouver d'ici peu avec des invendus de l'année dernière dont ils n'auront pas trouvé preneur. Je ne vous jette pas la pierre, on est tous pareils. Ce cercle infernal, nous en sommes tous responsables, nous et les anciennes. Savez-vous ce qui se passe avec les vêtements, mais aussi le petit électroménager, les produits d'hygiène, même les meubles, les cartouches d'encre, les livres, les fournitures scolaires? Ce qui n'a pas été vendu finit souvent à l'incinérateur. Heureusement, théoriquement, c'est fini depuis le 1er janvier. Interdiction de destruction et priorité aux dons. Quand on pense que 9% du secteur des invendus concerne les produits d'hygiène ou de puériculture et que près de 2 millions de femmes n'ont pas les moyens d'acheter des protections hygiéniques en quantité suffisante, on se dit qu'il était quand même grand temps. Les invendus non alimentaires représentent environ 3% du chiffre d'affaires de la distribution en France. Il y a des millions de tonnes de vêtements, par exemple, dans les entrepôts de chaussures aussi. Après la loi Garot qui ne concernait que le gaspillage alimentaire, le gaspillage non alimentaire est donc dans le viseur du législateur. Pourtant, le zéro gaspillage vers lequel on veut tendre, nous en sommes loin. Ce coup de pression du législateur va peut-être accélérer les choses. On posera évidemment la question ensemble. Qu'est-ce que sa loi va changer? Quels circuits, quelles astuces, quels partenariats pour en finir avec le gaspillage non alimentaire? Est-ce que les entreprises ont besoin qu'on les aide à déstocker pour éviter de jeter? Le sujet, il nous concerne tous, nous consommateurs qui ne fermons pas les yeux. On en parle ce soir dans le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Jocelyne. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes vos équipes. Mes félicitations aussi pour l'éblouissant succès de la station qui est amplement mérité.
Eh bien, merci beaucoup, Jocelyne. Super. Vous n'avez plus de questions.
Non.
Allez-y. Allez-y.
Oui, moi je suis tout à fait contente de cette situation. Je dirais que depuis 2 ans, pour les vêtements déjà, ne serait-ce que 90% de ce que j'ai pu acquérir émane de dons ou d'achats de seconde main. Alors que ce soit, bon, je vais les citer parce que c'est une association Emmaüs, que ce soit des amis qui me donnent, que ce soit voilà, une armoire des armoires qui sont installées très efficacement et de belle façon sur l'agglomération de Pau. On peut prendre différents objets, des vêtements, des chaussures, des livres, on en laisse. Des amis qui me donnent. Ma radio, voyez-vous, elle vient d'Emmaüs. Une petite machine à café que j'ai eue longtemps venait d'un vide-grenier. Je peux multiplier les exemples à loisir et je suis très contente de faire partie de ce système-là.
Et d'avoir été presque précurseur, on vous remercie beaucoup Jocelyne pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Alice Elfassi est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste chez Zero Waste France. Pierre-Yves Pasquier est avec nous également, bonsoir Monsieur Pasquier.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de la start-up Commerceau qui fait le lien justement entre les entreprises et les associations pour gérer les invendus. Moi je vais vous poser la question à tous les deux, on regarde l'exemple de Jocelyne d'ailleurs, évidemment qu'on sent bien que le législateur derrière est en train d'essayer de mettre un coup de pression, mais au fond, par quoi ça passe entre nous et les enseignes? On dit quoi? On dit 60-40? On dit 50-50? Parce que après tout, si Jocelyne achète moins, ben du coup il y a moins d'invendus aussi dans les magasins. Donc par qui ça passe? Est-ce que c'est vraiment chacun son rôle et chacun sa part, Alice Elfassi?
Je dirais que c'est compliqué de donner vraiment un pourcentage, mais effectivement, il y a les deux qui rentrent en ligne de compte, les deux sont importants. Les consommateurs et consommatrices ont un pouvoir en réduisant et en changeant leur consommation, mais il faut aussi que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et adoptent des politiques publiques qui aillent dans le bon sens et qui incitent, voire contraignent les acteurs économiques à changer leurs pratiques.
Parce que les voies d'écoulement, je sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire d'ailleurs, Pierre-Yves Pasquier, c'est quoi en fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, enfin jusqu'au 31 décembre, on va dire, ces stocks d'invendus, ces dizaines de milliers de tonnes de vêtements, de chaussures, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se répartit tout ça?
Alors déjà, il faut comprendre, peut-être expliquer pourquoi on a des invendus dans le non alimentaire. Dans l'alimentaire, ça peut paraître logique parce qu'il y a un sujet de date sur le non alimentaire. Ça va être des produits qui ont des légers défauts, ça va être des produits qui sont, pour 85% d'entre eux, ce sont des produits qui ont au pire un léger défaut.
C'est comme les légumes moches en fait.
Exactement, et c'est exactement le même principe. Et donc ces produits-là, pour des problèmes marketing, commerciaux, ne trouvent pas preneur et donc sont un petit peu comme des stocks sur les bras des distributeurs non alimentaires et donc il s'agit de trouver des solutions. jusqu'à maintenant, les solutions privilégiées, c'était plutôt du déstockage, un petit peu de dons aux associations, ça existe déjà, mais c'est pas parfait, puisqu'il y a encore, pour quasiment 40% d'entre eux, soit du recyclage, soit de la destruction.
Est-ce qu'on a les moyens, je parle même d'espace, parce que moi j'ai découvert effectivement qu'il y avait une quantité de choses non alimentaires qui stockaient dans les entrepôts qui est complètement démente. Même si on arrivait à trouver les filières aujourd'hui pour tout donner, pour que chaque personne qui en a besoin puisse avoir quelque chose gratuitement, est-ce qu'on a vraiment les moyens logistiquement de s'occuper de cette énormité, ou est-ce que ce qu'il faut d'abord gérer, c'est de toute façon qu'il y ait beaucoup moins de stock à l'intérieur de ces entrepôts avec des vêtements moches, comme vous dites, ou des chaussures un peu abîmées?
Ce qui est certain, c'est que la solution, elle n'est pas unique. C'est-à-dire que ça va être une globalité d'action, comme le disait à l'instant Alice. Il va y avoir un sujet de prise de conscience aussi pour faire changer le modèle économique. Plus globalement, la mise sur le don de produits aujourd'hui est un moyen, l'ADEME l'a prouvé, très efficace de réduire en fait le gaspillage, tout simplement parce que c'est un juste équilibre entre un excès de ressources d'un côté et des personnes qui sont en précarité. Donc oui, mais moyennant une structuration des filières, il va y avoir effectivement un énorme potentiel pour le don aux associations.
Il y a des entreprises qui ont commencé déjà, Alice Elfassi, ou pas? Parce qu'effectivement, on a l'impression, j'ai eu le sentiment en tout cas en préparant cette émission, qu'il y avait des entreprises vertueuses et d'autres un peu moins, exactement d'ailleurs comme dans ce qui est alimentaire, hein, de la même manière.
Oui, oui, dans tous les domaines, on observe un peu la même chose. Il y a des bons élèves et des moins bons élèves. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises, effectivement, qui ont déjà commencé à s'y mettre. Par contre, ce dont les acteurs généralement ne veulent pas entendre parler, c'est la réduction de la production. Et malheureusement, ça vient en complément. En fait, pour lutter contre le gaspillage, il faut effectivement des mesures comme l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires. Mais il faut aussi qu'on accepte à un moment donné de revoir aussi les stocks et de revoir la production, puisque comme vous le disiez, c'est aussi ces volumes, en fait, qui impressionne beaucoup et qui pose problème aujourd'hui.
Parce qu'il n'y a pas seulement ce qui est abîmé, mais il y a tout simplement ce qui n'a pas été vendu. On parle de mode parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vêtements là-dedans, mais c'est ce qui est de la saison dernière. Après les soldes, on verra bien là qu'est-ce qui se passe d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce qui se passe après la période de soldes avec ce qui reste sur les bras, puisque la collection arrive derrière, et puis ce sera la collection printemps, j'imagine, et puis la collection été arrive extrêmement vite, et puis l'hiver, et puis etc. C'est un éternel recommencement.
Traditionnellement, dans le domaine du textile, par exemple, les invendus des soldes de cette année vont être remis en stock. On va tenter de nouveau de les vendre en solde l'année prochaine. Et puis, une fois que les leviers commerciaux classiques, entre guillemets, d'entreprise sont épuisés, là, on va se tourner vers des sources d'écoulement externe, donc du déstockage, éventuellement du don aux associations. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que organiser une cellule de déstockage ou du don aux associations, ça va générer en fait de la complexité pour les entreprises. Et c'est là où ça devient difficile. C'est que les entreprises, les collaborateurs sont pris par beaucoup, beaucoup de sujets, en plus en ce moment avec une activité sanitaire qui trouble beaucoup l'économie. Elles manquent en fait de temps et de moyens pour organiser ça. Donc parfois, faute de moyens et faute de temps, là les produits sont finalement détruits.
Détruit, ça veut dire d'ailleurs incinéré. Est-ce que c'est extrêmement polluant? Est-ce que c'est enterré aussi? Il se passe quoi avec ces produits-là, en fait? Et qu'est-ce qui est envoyé d'ailleurs aussi? Parce qu'on a tous vu des reportages absolument terribles où on voit des tonnes et des tonnes de vêtements échouer comme des immenses dunes dans certains pays africains. Est-ce qu'on sait ce que devient tout ça, en fait?
Ouais, effectivement, la destruction peut passer par plusieurs voies d'élimination, mais la plus classique, en tout cas en France, ça va être la mise en décharge ou l'incinération. On voit beaucoup, comme vous dites, de déchets dans les pays africains par exemple, ou asiatiques, mais en réalité la mise en décharge en France n'est pas plus glorieuse ni plus esthétique, puisque nous aussi on recourt à la mise en décharge pour les déchets qu'on n'a pas pu, ou plutôt parfois pas voulu recycler ou réemployer. Et donc, ça va être cette mise en décharge, cette incinération, et effectivement l'export, parfois, de ces vêtements, par exemple, devenus des déchets dont on veut se débarrasser, dans des pays en voie de développement, qui, bien souvent, ne savent pas quoi en faire quand c'est pas mis dans des circuits de réemploi organisés, structurés dans ces pays-là, parce que ça peut aussi être bien fait, mais quand c'est simplement, on envoie tout notre surplus et dans des circuits qui ne sont pas structurés, ça aboutit en fait à effectivement polluer énormément les terres et parfois les bords de mer aussi de ces pays-là. On a vu des images récemment, notamment
assez choquantes. On a vu les mêmes, absolument. Bonsoir Bernard. Bernard.
Oui, c'est moi.
On vous écoute, c'est vous, c'est tant mieux. Et moi, c'est Fabienne. Allez-y.
Bonsoir. Okay. Je commence par une... Alors, c'est concernant les cartouches d'encre là, okay. que je voulais intervenir. Donc, je commence par une petite anecdote, vite fait, pour laisser la parole aux autres, bien sûr. Donc, l'autre fois, je suis allé à un magasin pour acheter des cartouches d'encre. Donc, je vois sur un mur, il y avait au moins, je n'ai pas compté, mais peut-être 50 ou 60 cartouches différentes pour une même marque. Donc, pour les autres marques, c'était la même chose. En plus, la cartouche d'encre que je cherchais, elle n'y était pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une diversité incroyable. Donc, je ne vois pas l'intérêt, pourquoi diversifier de cette façon-là ce que ça peut apporter aux fabricants. En plus, ces cartouches-là sont très chères, donc c'est des prix prohibitifs, ce qui fait que maintenant, puisque tout passe par Internet, on est obligé de faire des impressions. Pour un ménage, ça fait quand même des budgets assez importants. Donc, il doit y avoir des possibilités de recharger ces cartouches, ça doit exister, mais enfin, c'est pas du pratique. En plus... Les imprimantes, elles sont toujours à obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, elles ne marchent plus, on est obligé d'en racheter une neuve. Ce sont des produits américains. Pourquoi un fabricant français, par exemple, ne se lancerait pas là-dedans en faisant des imprimantes qui soient compatibles, et puis des cartouches d'encre simples, pas chères, qui pourraient être utilisées. Voilà, c'était ça ma question.
C'était votre suggestion. Merci beaucoup pour cette question, Bernard. Il y a deux choses dans ce que dit Bernard Alice Elfassi, notamment, il parle de l'obsolescence programmée, il a raison, en fait, parce que c'est aussi de là que viennent les choses. S'il y a autant de cartouches, comme il dit, c'est qu'on fabrique de plus en plus d'imprimantes et qu'elles sont plus ou moins sophistiquées, donc il faut effectivement une différence cache-tour d'encre, ouais. Mais la clé, c'est vraiment l'obsolescence programmée.
Oui, ouais, tout à fait. Sur les équipements électriques et électroniques, l'obsolescence programmée, l'obsolescence logicielle aussi, ce sont des problèmes assez majeurs qui font que les équipements électriques et électroniques, aujourd'hui, en France, c'est un des secteurs en fait les plus polluants et un des secteurs où on voit aussi le plus d'explosions de produits mis en marché et de nombre d'équipements par français françaises et les imprimantes en font partie bien sûr, mais on pense aussi surtout aux ordinateurs, aux smartphones, etc. qui font aussi l'objet d'un marketing très très agressif. Donc ces pratiques d'obsolescence, elles sont normalement interdites par la loi. Le problème, c'est toujours la mise en application de cette loi et le contrôle aussi de comment cette loi est effectivement appliquée et les moyens qu'ont les pouvoirs publics en leur disposition aussi pour aller vérifier ce qui se passe vraiment du côté des metteurs en marché, quoi.
Mais Pierre-Yves Pasquier, on a bien compris qu'il y avait un certain nombre de choses qui se passent quand même. On commence à réparer plus, y compris dans les grandes enseignes, on peut les ramener, etc. Sauf que si derrière on commande toujours autant, j'ai un peu l'impression qu'on se mord la queue en fait et qu'à la fin on se retrouve de toute façon avec le même problème d'invendu sur les bras.
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est un problème, comme on le disait tout à l'heure, qui est hyper complexe parce que c'est une chaîne d'approvisionnement et ainsi de suite. Donc, ce que nous on perçoit sur le terrain, c'est que aujourd'hui les entreprises ont une volonté de progresser, c'est indéniable. Pour reprendre le sujet de Bernard, effectivement, il y a une multitude de références d'imprimantes, une multitude de références de cartouches d'encre, et donc du coup, ça génère beaucoup de micro-besoins et donc un risque de perte des produits. Ça, c'est indéniable. Donc, il y a peut-être un effort à faire, effectivement, sur mieux travailler le marketing, et ainsi de suite. Mais d'une manière globale, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, elles cherchent à faire évoluer leur modèle, de passer d'un modèle linéaire où je ne vends pas les produits, j'ai tendance à les jeter, vers un modèle circulaire. Nous, on le voit aujourd'hui avec nos clients qui cherchent à mieux s'approvisionner.
Donc un flux tendu, en fait.
Exactement, moins stocké, avoir des gammes moins profondes, et surtout mieux gérer leurs invendus. Ça, c'est indéniable.
Comment vous faites quand on vient vous chercher, vous, parce que c'est vous le go-between, pardon pour cet anglicisme, entre les entreprises et les associations. Qu'est-ce qui leur manque réellement, en fait? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce qu'elles vous disent, nous, on a ça, on serait ravis de le donner, mais on n'a pas le circuit pour le faire, donc faites-nous le circuit? Est-ce qu'elles vous disent au contraire, apprenez-nous à moins stocker parce que ça sert à rien? Où est-ce que vous allez apporter votre expertise?
Alors nous, on apporte notre expertise par notre solution, qui est une solution hybride digitale et logistique. Digital, c'est-à-dire qu'on vient connecter, on a plus de 1300 clients en France, toutes ces entreprises avec des associations qui sont sur le territoire français. On va venir les connecter au sens propre du terme. Mmh. Et ensuite, après, on accompagne le parcours logistique des produits, c'est-à-dire qu'on les transporte de l'entreprise vers l'association pour justement qu'ils soient pas jetés et bien redistribués à des bénéficiaires dans les associations.
C'est la question que j'allais vous poser. Il faut que l'association aille chercher ou est-ce qu'on peut effectivement lui apporter en fait ces invendus dont elle peut avoir besoin?
On travaille sur les deux modèles. Soit l'association est en capacité d'aller les chercher, auquel cas c'est elle qui va aller les chercher et on informe l'association comment aller chercher les produits. Soit elle est en incapacité, par exemple des produits trop lourds ou trop volumineux, ou ainsi de suite. Là, c'est plutôt nous qui allons les transporter.
Angélique est avec nous. Bonsoir Angélique.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir aux invités. Donc moi je voulais savoir quels dispositifs sont prévus pour permettre la coexistence de petites activités artisanales qui sont capables de fonctionner à la commande sur mesure, parce que ça réduit le gaspillage à la source et l'artisanat ça reste le premier employeur de France.
Et donc du coup, quels dispositifs sont prévus pour la coexistence entre l'artisanat et, j'ai pas bien compris la suite de votre question Angélique, pardonnez-moi.
Alors, quels dispositifs sont prévus pour permettre la coexistence de petites activités artisanales
avec, avec les grosses enseignes, en fait, c'est ça que vous dites?
Voilà, en fait, c'est un dispositif qui, enfin, c'est une façon de produire qui est une alternative au circuit calibré à grande échelle, parce qu'il me semble que la start-up commerciaux est partenaire surtout de la grande distribution et des activités qui en découlent. Donc c'est une dimension qui est grosse par rapport à la vie en milieu rural où on trouve pas forcément cette échelle de mode de distribution. Mmh. Donc nous on a besoin en milieu rural où il n'y a pas assez de personnes, mais c'est comme ça et c'est bien aussi. Donc en fait qui vivent, il faut prévoir des modes de production et toutes les activités qui en découlent dimensionnées à cette échelle-là et l'artisanat répond bien à ça en fait. Donc il y a beaucoup de demandes pour l'artisanat, les habitants aussi souhaitent soutenir leur artisanat local, mais en ville aussi d'ailleurs. Mmh. Et quel partenariat possible avec la start-up, avec les grosses associations dimensionnées à plus grande échelle?
Est-ce que vous voulez? Merci beaucoup, Angélique. Pierre-Yves Pasquier, qu'est-ce qu'on répond?
Alors, en fait, on travaille aujourd'hui, évidemment, dans les grandes agglomérations, mais on travaille aussi partout en France, donc aussi dans les zones rurales, voire même particulièrement dans les zones rurales, justement parce que c'est là où les difficultés interviennent pour les entreprises à trouver des associations en proximité de leurs entreprises. Donc c'est là où on vient aussi amener notre expertise par la facilité de connexion des acteurs. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel aussi on travaille dans le cadre de ce que disait Angélique à l'instant sur l'artisanat, on va travailler dans la hiérarchie en fait d'utilisation des produits. La première partie, c'est le réemploi, donc c'est donner les produits à des associations. Le deuxième sujet, ça va être la réutilisation. La réutilisation, ça sous-entend potentiellement que le produit va être réparé. Et donc là, effectivement, on vient travailler avec des recycleries, par exemple, le réseau des recycleries, c'est un réseau qui se développe énormément, ou des ateliers d'insertion, des ESAT, des ateliers de travail adaptés, qui vont en fait accompagner aussi des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, soit handicapées, sur des ateliers de réparation de produits.
Réparation et recyclage, ce sont deux choses différentes, ou est-ce que les deux finalement peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre, Alice Elfassi?
Oui, ce sont deux choses très différentes et qui sont pas du tout sur le même plan en termes de hiérarchie, comme le disait Pierre-Yves, de traitement des déchets.
Exactement.
Et ça, c'est quelque chose qui est bien obligatoire dans notre droit, même si parfois certains acteurs économiques ont tendance à l'oublier. La prévention et le réemploi et la réparation sont bien prioritaires par rapport au recyclage, et donc un acteur économique, une enseigne par exemple, ne peut pas mettre directement ses déchets au recyclage sans avoir d'abord essayé de les réemployer, de les réparer, de les réutiliser. Donc on est bien sur deux strates très différentes qui peuvent être complémentaires, parce que le recyclage est intéressant quand il arrive au bout de la chaîne pour des matériaux qui n'ont pas pu être réemployés, mais il doit bien arriver seulement en bout de chaîne, et c'est encore quelque chose qui est parfois difficile à entendre. vendre et à faire comprendre chez les acteurs économiques.
Pour la, dans la liste de ces produits non alimentaires que désormais on n'a pas le droit de jeter, est-ce qu'il y a des choses qui sont non recyclables d'ailleurs? Est-ce qu'on a aussi, on est aussi face à ce problème-là, à ce mur-là? Je ne sais pas ce qu'il en est, par exemple, des cartouches, vous voyez, dont parlait tout à l'heure notre ami auditeur, ou de choses de ce genre-là. Est-ce qu'on est aussi face à beaucoup de produits qui ne sont alors, ni réparables, ni recyclables?
Il peut y avoir effectivement des produits qui, en l'état de nos filières en France, à la fois de nos filières techniques, mais aussi de nos filières opérationnelles, il ne faut pas oublier ça, c'est que le recyclage, ce n'est pas uniquement ce qu'on sait faire techniquement, c'est aussi ce qui est rentable.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il y a des débouchés pour la matière première recyclée qu'on va aboutir à produire? Il y a malheureusement énormément de produits pour lesquels il n'y a pas de filière aboutie, effectivement, actuellement, mais pour lesquels, du coup, le réemploi va devoir être développé en priorité.
Pierre-Yves Pasquier, puis j'ai une question par-dessus. En fait, moi, je voudrais savoir ce qui est le plus facile, en fait, pour vous et pour les enseignes. C'est quoi le truc le plus simple, au fond, qu'on pourrait améliorer tout de suite?
Juste pour compléter ce que disait Alice à l'instant, effectivement, aujourd'hui, ce qui est encore détruit, c'est à peu près 7% de la totalité des produits invendus en alimentaire. Ça représente environ 300 millions d'euros de valeur de marchandises à l'année. Donc vous ramenez ça à la journée, ça fait quasiment 1 million d'euros de valeur de marchandises qu'on jette tous les jours. Très probablement qu'il y a des produits qui sont non recyclables dedans, mais il y a évidemment beaucoup beaucoup de produits qui eux sont recyclables. Et du coup ce qu'on perçoit nous quand même sur le terrain, c'est qu'il y a une prise de conscience globale quand même des entreprises, même si on déplore, on aimerait que ça aille encore plus vite. Globalement, ce qu'on voit, ce qui est simple à mettre en place pour les entreprises, c'est du don aux associations en local. On travaille avec des enseignes comme Decathlon, par exemple, où on a mis en place un cycle de partenariat avec des centaines d'associations locales proches des magasins pour récupérer tous les produits qu'ils n'arrivent plus à vendre ou des produits que les clients, nous-mêmes, avons ramenés parce que ça nous plaît pas ou il y a un petit défaut sur le t-shirt, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un applicatif sur des produits neufs, encore utilisables, qui se développent beaucoup.
Ça veut dire qu'il y a des entreprises vertueuses et d'autres évidemment qui sont nettement moins vertueuses. J'imagine que ça marche là pour le coup comme dans l'alimentaire. Il y a ceux qui jouent le jeu, il y a ceux à qui il faudra tirer l'oreille. On n'est pas obligé de les citer, mais est-ce qu'on les a identifiés? Est-ce qu'on sait là où ce sera effectivement extrêmement difficile?
Vous savez, il y a 100 000 entreprises qui sont concernées par ce sujet du gaspillage non alimentaire en France. Avant que les 100 000 entreprises soient parfaitement en ligne avec la loi AGEC.
Certes.
Il y a un petit peu de chemin à parcourir. Ce qui est certain, c'est que le sujet progresse à peu près dans tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont effectivement plus concernés que d'autres par le sujet de la loi AGEC. Mais globalement.
Et par exemple, c'est pour ça que je répète ma question, pour qui ce sera, quand on dit qu'ils sont plus concernés, ça veut dire que de toute façon, ils ont des clés, en fait. Donc pour qui ce sera plus facile? Est-ce que c'est les vêtements? Est-ce que c'est l'électronique? Est-ce que c'est quoi le plus facile?
En fait, aujourd'hui, la partie du textile, c'est un domaine qui est, textile, chaussures, tous les domaines des produits culturels aussi, c'est des
les
éléments
livres,
sur lesquels,
parce que c'est scolaires.
Exactement, c'est des produits qui sont assez faciles à transporter. Évidemment, un livre obsolète, évidemment,
ça n'existe pas,
ça n'a pas de sens, exactement. Donc là où aujourd'hui les enseignes doivent s'en séparer, c'est que ça ne marche plus, il se vend plus, donc il prend la place d'un autre livre qui lui va pouvoir se vendre. Donc c'est là où en fait nous on peut intervenir.
Jean-François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jean-François.
Voilà, j'avais deux petites questions. La première, je rebondissais sur la question de la surproduction, qui me paraît quand même aussi un point important. Je me demandais si effectivement cette question de recyclage et de dons après aux associations que je soutiens beaucoup, parce que j'ai travaillé dans l'insertion par l'activité économique, mais est-ce qu'on n'aurait pas tendance plutôt à décaler le problème dans le temps et finalement d'ici 10 ans se retrouver face au même problème? Je sais aujourd'hui que les ressourceries se retrouvent aussi avec des surplus et des choses qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont obligés de les retraiter aussi derrière. Et puis ma deuxième question dans cette question de surproduction aussi, c'était quelle était la place un peu de la délocalisation aussi, parce qu'on sait aussi que plus produire, pour réduire les coûts, il faut produire beaucoup. Et pour produire beaucoup, aujourd'hui, on délocalise beaucoup, notamment en Chine, qui est devenue l'industrie du monde. Et voilà, quelle est du coup l'importance de cette délocalisation dans cette problématique de surproduction? On surproduit pour que ça coûte moins cher, et pour se retrouver avec des surstocks qui coûtent finalement moins cher que si on avait produit autrement. Voilà.
Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Alice Elfassi, ça tombe sous le sens, effectivement, ce que dit notre auditeur, et y compris sur la surproduction. Mais c'est terrible parce que j'ai envie d'ajouter, moi j'ai l'impression qu'on a ce discours-là, on l'a depuis très longtemps, on l'a manifestement depuis la pandémie. Mais pour l'instant, on n'est pas très bon là-dessus.
Non, tout à fait. Autant la loi a bien bougé sur certains volets de la lutte contre le gaspillage. Et là, on le voit avec les invendus. Voilà, la loi est très complète. Elle est entrée en vigueur. C'est une grande avancée. Par contre, sur le sujet de la surproduction, on voit qu'il y a une grande lacune encore des actes. Après les discours, il faut passer aux actes et notamment au niveau de la réglementation, au niveau des filières, notamment, je pense au textile, qui ne veut pas du tout entendre parler d'obligations ni même d'objectifs chiffrés de réduction des mises en marché de produits neufs, alors que c'est bien comme ça en fait qu'on est obligé d'agir maintenant face à un secteur qui est à la fois extrêmement polluant avec une surproduction qui se traduit sur le nombre d'invendus, qui se traduit sur le nombre d'exports qui arrivent pour polluer les pays en développement.
Et c'est vraiment le diable qui se mord la queue, en effet. Ouais.
Exactement, c'est vraiment ça. Et qui se traduit aussi effectivement par des conditions de travail, aussi des impacts sociaux et humains qui sont terribles, qui sont dramatiques dans certains pays en développement. Quand on parlait de délocalisation de la production pour avoir des main-d'œuvre à bas coût, etc. Sur le textile, on commence à être au courant maintenant et on est au courant depuis plusieurs années des conditions dans lesquelles nos vêtements sont produits. Et pour autant, la réglementation ne bouge pas sur cette question de la production.
Et j'allais dire, on n'y arrivera jamais, pardon d'être pessimiste, mais on n'y arrivera jamais si c'est pas ce cercle infernal-là qui est cassé, non? Parce que sinon, on se retrouvera toujours. Alors oui, peut-être qu'on aura moins de mal à donner et à ne pas jeter ni détruire, mais au bout du compte, on se retrouvera quand même face à un stock qui sera de toute façon un stock ingérable.
Oui, oui, tout à fait. Et là-dessus, on revient un petit peu sur la première question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est aux consommateurs ou aux pouvoirs publics ou aux acteurs économiques d'agir? Et la réponse, c'est vraiment tout le monde en même temps. Et là, sur ce sujet-là, on voit bien qu'on ne peut pas faire peser la seule responsabilité aux consommateurs qui est bombardé de publicité, d'incitation marketing, à acheter sans cesse, à renouveler sans cesse les collections qui se renouvellent sans arrêt, etc. On ne peut pas demander aux consommateurs d'agir seuls contre ce problème-là, que ce soit sur le textile ou sur les équipements électroniques. Il faut bien aussi qu'il y ait une incitation de la part de l'État, de la loi et que les acteurs économiques y soient contraints.
Pierre-Yves Pasquier, il y avait une autre remarque chez notre auditeur Jean-François qui était bien et qui disait, est-ce qu'on n'est pas en train de reculer le problème tout simplement? Parce qu'à un moment, effectivement, même sous forme de dons, ces vêtements vont finir par ces vêtements, ces chaussures et autre chose, machines à laver, vont finir par s'user et à la fin, on arrivera quand même en bout de cycle.
Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est une solution qui est globale, Alice le disait à l'instant, le vrai changement, il passera par un changement profond en fait de notre modèle, avec voilà typiquement quelques éléments aujourd'hui. On parle du Made in France quand même depuis plusieurs années. Beaucoup de chaînes de textiles ont réduit leur production en Asie pour relocaliser parce que c'est finalement plus pertinent économiquement et ainsi de
beaucoup,
suite.
Beaucoup, mais pas tant que ça, et surtout pas les
pas
très très grosses.
C'est clair, tout à fait, voilà. Bien sûr. Et l'autre élément qui aussi prend quand même beaucoup de parts de voix, c'est la seconde main. Prends l'exemple d'une paire de chaussures aujourd'hui qu'on peut acheter sur des sites de seconde main. Ça devient évident aujourd'hui d'acheter une paire de chaussures en seconde main. Il y a quelques années, acheter une paire de chaussures en seconde main, c'était presque choquant en termes d'hygiène. Aujourd'hui, ça devient logique. Donc on voit bien quand même que le consommateur a un vrai pouvoir d'action. Par effet miroir, les pouvoirs publics s'attachent à légiférer et poser une loi comme la loi AGEC. C'est bien. La loi AGEC et les lois sur le gaspillage alimentaire, c'est un arsenal juridique, législatif, qui est unique au monde. Donc, sans faire cocorico, il y a quand même des avancées en France qui sont positives. Maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça, c'est indéniable.
Est-ce qu'on compare avec les produits alimentaires, justement, puisqu'après tout, les produits alimentaires, ça fait combien d'années maintenant qu'on est dans ce cadre-là?
2016.
Voilà, 2016, donc c'est assez récent. Mais néanmoins, est-ce qu'on a vu des évolutions? Est-ce qu'on a vu des améliorations? Et on se dit, pour le non-alimentaire, ça prendra le même chemin. En effet, la part de l'entreprise, la part du consommateur, mais où est-ce qu'on a progressé et on se dit du coup ça on fera pareil avec le non alimentaire, on peut dire ça ou pas?
Ouais, effectivement le sujet du gaspillage alimentaire depuis 5, 6, 7 ans, on en entend beaucoup parler, ça a été un sujet qui a été pris à bras le corps et sur la destruction des invendus alimentaires, il y a eu un énorme changement à la fois par la réglementation et par les pratiques des entreprises qui s'y sont mises conjointement maintenant on voit quand même de moins en moins de publications scandaleuses sur des supermarchés qui mettent de la javel sur des aliments encore consommables, etc. Ouais. Après, je pense que sur le non-alimentaire, il y a une question de la surproduction qu'on abordait juste avant, et qui est quand même assez différente. et qui là pose un problème supplémentaire par rapport à celui qu'on avait avec l'alimentaire, et où pour le coup ça peut être un petit peu plus compliqué d'agir vraiment sur le problème environnemental que posent ces produits-là, textiles, électroniques en particulier, mais d'autres secteurs aussi. Je pense qu'on peut avancer sur la lutte contre le gaspillage en termes de destruction des invendus pour le non-alimentaire au même titre qu'on l'a fait avec l'alimentaire, mais il restera encore beaucoup à faire si on veut vraiment agir concrètement et drastiquement surtout contre le changement climatique actuel et l'impact global de ces produits-là.
Bonsoir Sandrine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Sandrine.
Je voulais apporter un témoignage parce qu'en fait je suis bénévole dans une association qui s'appelle la Cravate Solidaire. Donc c'est une association qui est née à Paris et qui est présente un peu partout en France, dans les départements. En fait, on réemploie des vêtements parce qu'on accompagne des demandeurs d'emploi sur tout un parcours, à la fois un coaching vestimentaire et un coaching RH. Et dans ce parcours, justement, pour constituer un dressing que l'on a à disposition des demandeurs d'emploi qui viennent en atelier pour être accompagnés, on organise des collectes justement de vêtements dans les entreprises pour justement aller à la rencontre des entreprises et éviter des déplacements, favoriser ce réemploi. On collecte les vêtements qui nous permettent d'alimenter ce dressing pour en vue de coacher vestimentairement des demandeurs d'emploi. Donc c'est un double intérêt, c'est le réemploi du vêtement, mais aussi le fait que le vêtement va servir à une valorisation de la personne, parce qu'on sait que dans cet accompagnement, le vêtement a aussi son rôle de redonner confiance à la personne accompagnée. Donc voilà, c'est une action de la Cravate Solidaire sur le réemploi des vêtements.
Eh bien, merci beaucoup Sandrine, et longue vie évidemment à la Cravate Solidaire. Moi, je me demande dans ces cas-là, Pierre-Yves Pasquier, si la grande ou moyenne surface, est-ce qu'elle peut spécifier chacune des associations avec lesquelles elle travaille, ou il faut pour elle lui offrir les moyens de donner en gros et le tri pour ceux qui n'ont besoin par exemple que de costumes et de cravates parce que c'est dans cette direction-là qu'ils vont avec qu'ils font du bénévolat. Donc est-ce que c'est après que doit se faire cet autre tri? Comment ça marche en fait?
Alors nous, en fait, on a vu l'évolution sur cet aspect-là, c'est-à-dire que les entreprises, quand on a démarré, nous, commerciaux, en 2013, il y avait plutôt un sujet de non-communication sur les partenariats associatifs. Non, j'ai pas envie de communiquer, et ainsi de suite. À l'inverse, aujourd'hui, il y a une vraie appétence à expliquer les partenariats locaux qu'on a mis, quels produits on a donné, combien de valeur de marchandises on a donné, et ainsi de suite. Et juste pour réagir, effectivement, sur ce que disait Sandrine, qui est hyper important, les associations aujourd'hui, elles sont du coup peuplées de bénévoles. Ces bénévoles sont très engagés dans leur démarche sociétale. Là où on aide les associations, c'est aussi dans la simplification des approvisionnements. Il y a eu une grosse difficulté de recrutement de bénévoles là avec le Covid, parce que des personnes forcément un peu plus à risque et ainsi de suite. L'intérêt d'une solution comme celle de Commerceau, c'est en fait d'aller simplifier aussi les approvisionnements des associations, puisque le travail de Sandrine auprès des jeunes demandeurs d'emploi, il est clé. Et si elle ne le fait pas, personne d'autre le fera.
Adrien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Adrien.
Oui, j'avais un témoignage sur l'économie circulaire. En deux mots, moi j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'industrie des sports de glisse, ski, snowboard. Et il y a 4 ans, avec mon associé, on s'est lancé on a créé une entreprise, Knockboard, qui a le but de revaloriser ces articles de sport, leur donner une deuxième vie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a créé une marque de skate avec des snowboards, on a créé du mobilier, des objets déco, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on s'est lancé, on pensait être en retard, arriver déjà trop tard avec des solutions. On se disait, il aurait fallu qu'on fasse ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et en fait, on se rend compte que dans cette économie circulaire, il manque énormément de maillons. Il manque les maillons de la logistique. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à avoir accès à cette matière première. On a beaucoup de partenariats avec des marques de ski, des grandes marques, des marques de snowboard. Mais elles n'ont que 1% du marché. Tout le reste, les 99%, elles l'ont vendu. Et c'est perdu un petit peu dans la nature, chez les gens, un peu dans les déchetteries, etc. Et en fait, c'est un vrai frein pour nous. Parce qu'il manque toute cette logistique en amont qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été mise en place par l'économie linéaire qui conduit notre économie aujourd'hui.
Merci beaucoup Adrien, vraiment, pour cette remarque. Alice Elfassi pour Zero Waste, c'est intéressant ce qu'il dit Adrien, parce que c'est comme si au fond la bonne intention on l'a, mais il nous manque plein d'étapes en fait pour que ça, pour que tout ça soit fluide en fait.
Ouais, ouais, tout à fait. Et le sujet de la logistique et de la collecte en fait, des circuits de collecte des produits, c'est très important et c'est aussi pour ça qu'existent les filières de responsabilité élargie du producteur. Les articles de sport sont concernés à partir de 2022 seulement, donc peut-être que Qu'Adrien verra le mieux avec la constitution de cette filière, mais ces filières-là, elles sont pas parfaites non plus. Elles sont très axées justement sur le recyclage, la fin de vie des produits, mais on essaye de faire comprendre aux metteurs en marché que maintenant c'est pas suffisant et qu'il faut aussi qu'ils s'occupent des circuits de réemploi, de la réparation, de la prévention même des déchets. Et donc ça va passer un moment par la réduction de la production. Donc ces filières-là, on plaide justement pour que ces phases-là en amont du recyclage et de l'élimination soient mieux prises en compte et mieux investies aussi, pour pas justement qu'on doive compter uniquement sur des startups qui se créent aujourd'hui et qui ont du mal parfois, parce que comme il le dit, en fait il y a plein de produits qui sont enfouis chez les gens qui ne savent pas où les mettre, qui ne savent pas comment les trier. Il y a un gros problème de communication aussi sur ce qu'on peut faire de nos produits, même sur les vêtements, c'est très opaque.
On est bien d'accord, absolument.
On est souvent bien en peine de savoir ce qu'on doit en faire.
Absolument, et on a entendu tellement de choses, notamment sur les fameuses boîtes dans lesquelles on a tous mis à un moment nos vêtements, puis après on nous a dit non, il faut surtout pas faire ça, parce que c'est là qu'on se retrouve avec les dunes de fringues dans les plages africaines, etc. Et au fond, on ne sait plus quoi en faire.
Tout à fait, c'est vraiment un gros problème qui est beaucoup un problème de communication, je pense.
Une dernière question, c'est celle de Thibaut. Bonsoir Thibaut.
Oui, bonsoir. Je vous appelle à la fois pour un témoignage et une question. Alors, je travaille dans une entreprise qui fait des meubles de luxe. Donc, l'avantage, c'est qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont sur commande, ce qui permet de réduire un petit peu le gaspillage. Par contre, des fois, on a quelquefois des meubles qui peuvent avoir un léger défaut, assez souvent visuel. On les renvoie le plus souvent aux fournisseurs, mais par contre, on a certains fournisseurs qui refusent la récupération et qui nous obligent, on est obligé par contrat, de procéder à la destruction du meuble avec preuve de destruction. Donc depuis tout à l'heure, j'entends parler beaucoup de choses à propos des revendeurs qui vont être obligés de réduire le gaspillage, mais à l'heure actuelle, j'ai pas entendu de choses au niveau des fournisseurs et des fabricants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait à ce niveau-là ?
Merci beaucoup Thibaut. Est-ce que quelqu'un peut aider Thibaut pour répondre Pierre-Yves Pasquier ?
Ça concerne effectivement la totalité des entreprises, y compris donc les fabricants. Donc l'entreprise de Thibaut, elle est effectivement concernée. Mais là, ce que pointe Thibaut est intéressant, c'est que ça fait le lien avec ce que disait Alice à l'instant. Il y a un vrai sujet de prise de conscience. C'est que, en fait, il y a un enjeu de comprendre qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans un nouveau modèle de circularité, stopper la linéarité par confort, par simplicité. En fait, cette entreprise se dit, tu détruis le produit, c'est pas grave. Et en fait, il faut changer ce modèle, il faut changer ce paradigme-là pour dire, quand bien même il a un léger défaut, on va pouvoir le recycler, le réparer pour le remettre dans le circuit.
Voilà, changer de paradigme. Un jour ou l'autre, il sera là le monde d'après. Qu'est-ce qu'on croit ? Allez, merci beaucoup. Merci à tous pour vos très nombreux appels.